il est 4h15, on rentre dans la dernière ligne droite du direct aux rencontres jeunes chercheurs. Et pour continuer l'émission, j'ai encore des élèves du collège Augustin Thierry. Ils ont été très très présents, très actifs cette année pour les RJC et pour le défi Robert Houdin. Donc on les récompense aujourd'hui en les invitant sur notre plateau. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors est-ce qu'on peut faire un petit tour de table rapide pour se présenter? Vas-y.
Donc alors moi je m'appelle Tiffen.
Alors tu es dans quelle classe?
Je suis en 3ème 4.
Moi c'est Margot, je suis aussi en 3ème 4.
Moi c'est Estelle, 3ème 4 aussi.
Moi c'est Thibaut, également en 3ème 4.
D'accord, donc c'est un tir groupé de 3ème 4. On y va. Alors de quoi vous venez nous parler là pour commencer? Parce que je crois qu'on a deux sujets à aborder ensemble. Le premier, on va parler des jeux vidéo, c'est ça?
C'est ça,
ouais.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les jeux vidéo? Comment vous avez fabriqué ça? Vous avez fabriqué des jeux vidéo, c'est ça?
Oui, on a utilisé un logiciel qui s'appelle Scratch.
D'accord. Ouais, c'est bien. Donc, le Scratch, on en a parlé un peu plus tôt avec les élèves qui sont venus faire la présentation du collège et de la ville. Mais du coup, vous n'avez pas travaillé de la même façon. Vous, l'objectif, c'était de faire des jeux, donc c'est-à-dire quelque chose d'interactif avec des règles, etc.
C'est ça.
Ouais. On a chacun réalisé un projet différent de notre choix.
Ok. Alors du coup, juste deux, trois petites choses, comment on programme sur Scratch? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile de programmer notamment un jeu vidéo?
C'est assez compliqué, oui. Déjà, il faut prendre en compte beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Ça dépend aussi si on veut faire bouger son personnage ou pas. Il y a beaucoup de choses.
D'accord. Est-ce que vous avez, de façon générale, eu des difficultés dans la programmation?
Moi j'ai eu quelques difficultés parce que le bonhomme qui se cachait n'était pas détecté par le bonhomme qui le trouvait, alors le jeu ne se finissait pas.
D'accord.
Et moi aussi parce que en fait mon jeu était En fait mon jeu devait faire clignoter des boutons et j'ai décidé de les faire s'actionner aléatoirement. Mais je pense que j'aurais pas dû puisque j'ai pas fini mon jeu. C'était D'accord. trop compliqué.
D'accord. Une petite difficulté, puis après on va rentrer un peu dans le détail des présentations de chaque jeu.
Bah moi j'ai eu du mal à faire déplacer la balle de façon aléatoire.
D'accord. Ouais, l'aléatoire dans un jeu c'est toujours compliqué. On s'en doute bien parce que du coup si c'est programmé, c'est plus tellement aléatoire. Quoi. Il faut trouver le bon équilibre. Alors du coup toi tu as fait. C'est quoi ton jeu vidéo exactement?
Donc en fait moi je suis partie sur un jeu de basket. Donc l'utilisateur il doit envoyer le ballon. En fait j'ai fait deux paniers de basket. Il y en a un qui est bleu et un qui est orange. Donc l'utilisateur il doit envoyer le ballon dans le panier orange si le ballon est orange et dans le panier bleu si le ballon est bleu.
Donc, d'accord.
Alors moi c'est deux personnages dans plusieurs niveaux et plusieurs décors et l'utilisateur contrôle un personnage et l'autre personnage se cache et l'utilisateur doit retrouver le personnage.
Moi, ben, y a trois boutons en haut qui s'actionnent dans un ordre précis et en bas, il faut les réactionner dans le même ordre.
Et moi, c'est un personnage qui doit faire rebondir une balle sur sa tête et il doit récupérer des objets spéciaux. Et ainsi, ces objets lui rapportent quelque chose dans le jeu, par exemple plus de points, une vie, voilà.
D'accord, donc des idées, des projets très variés. Ça vient d'où ces idées, du coup? C'est des choses que vous aviez déjà vues, vous allez vous refaire ou... L'inspiration, elle vient d'où dans ce genre de situation? Est-ce que vous savez?
En fait, moi, j'aime bien le basket, donc je me suis dit que ça serait plus facile en connaissant un peu, et voilà.
Pour les autres, l'inspiration, elle vient d'où?
Bah moi, en fait, je voulais faire au début un jeu de pong, mais en fait, je me suis dit d'après de mettre un personnage et de le faire à la plage.
D'accord. Et vous, les filles?
Et pas partie. Enfin,
non, ça vient
comme ça. J'ai juste trouvé ça comme ça, ouais,
voilà. Ok, ouais,
moi aussi.
Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de d'autres sur ce projet? Oui, moi j'avais une question. Les jeux vidéo que vous avez programmés là, est-ce qu'ils sont disponibles à tout le monde ou est-ce que c'est uniquement un petit truc pour vous? Est-ce qu'un jour on pourra nous tous amateurs de jeux vidéo découvrir et essayer vos jeux? Est-ce que vous savez ça?
Bah tout le monde peut y jouer du moment où il est accessible sur une clé USB ou des choses comme ça.
D'accord. Et est-ce que ça serait, par exemple, là, je me tourne vers la professeure. Est-ce qu'on peut les retrouver sur Internet, un de ces jours, ces jeux?
Alors, la question, effectivement, se posait de si on allait les mettre sur le site du collège ou si ça restait propre à eux. Donc on n'a pas encore trop décidé de ce genre de choses parce qu'on n'en a pas discuté. Parce que ça reste quand même un jeu qui leur est propre et voilà, il y a le droit d'auteur s'ils veulent garder le droit d'auteur. Mais effectivement, après, on a la possibilité de les mettre en ligne soit sur le site du collège ou soit sur le site lié au logiciel Scratch.
Du coup, par rapport à ce logiciel, j'ai cru comprendre, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, que c'est un logiciel qui est en open source ?
Oui, il est téléchargeable gratuitement et du coup, on peut même l'utiliser directement sur le site internet si on ne veut pas le télécharger.
D'accord, donc c'est-à-dire que n'importe qui peut utiliser et améliorer le logiciel, mais toutes les productions, du coup, elles sont protégées par les auteurs de ces jeux-là, en fait.
Alors du coup, pour le moment, c'est ça la question, c'est que je ne sais pas encore si on les met en ligne, si les personnes qui les récupèrent peuvent les modifier ou s'ils ne sont pas modifiables, en fait.
D'accord, voilà. Ok. Bon, on posera la question à Pierre, l'informaticien de la radio, et puis même à Patrice Lépicier, qui est l'association Blogul, président de l'association Blogul, qui est une association d'utilisateurs du libre. Donc voilà, c'est des questions qui sont intéressantes, on leur posera quand on les rencontrera. Moi, je voulais juste savoir un petit peu, vous avez pris du plaisir un petit peu à programmer ces jeux, à fabriquer tout ça ?
Oui, mais à certains moments, c'est super compliqué, donc... On s'amuse un peu moins, mais au début, oui, c'est quand même...
C'était bien de tester les jeux des autres. Et ouais, c'est vrai que des fois, c'était compliqué, on en avait un peu marre. Hein.
Il y avait les moments de plaisir où on réussissait à avancer un petit peu, mais de longs moments de frustration quand même, quand ça marchait pas.
C'est vrai que quand on n'y arrivait pas, bah, c'était un peu rageant, et donc, mais sinon, c'était super.
Okay. Donc là, je pense qu'ils sont tous contents de leur aboutissement. Mais effectivement, il y a eu des moments un peu plus dans le bas, en fait. Ça a été compliqué.
Mais c'est ce qui fait que du coup, la réussite n'est que meilleure derrière aussi.
Oui, là, je pense qu'ils sont contents de ce à quoi ils ont abouti aujourd'hui et de la présentation qu'ils ont fait ce matin. Et voilà.
Oui, j'y ai assisté d'ailleurs. C'était une présentation de très très belle qualité. Encore une fois, bravo. De façon générale, tous les élèves que j'ai vus d'ailleurs s'en sont très très bien sortis sur les différentes conférences. Alors on avait un deuxième sujet à aborder, et là c'est un projet que j'ai un petit suivi d'un peu plus près puisque je suis venu vous voir au collège, c'était le projet sur les hologrammes. Alors est-ce que vous pouvez me présenter rapidement l'objet de tout ça ?
Bah oui, en fait au début, Monsieur Redon nous a ramené une pyramide et sur son téléphone il avait une vidéo d'hologramme et on s'est dit qu'on pouvait travailler pour ça, présenter ça aux rencontres jeunes chercheurs, ça nous a plu. Donc après on a poussé un peu plus loin, on est allé sur toute la 3D.
D'accord.
Donc les vrais hologrammes et la 3D.
La photographie en 3D notamment.
Voilà, oui.
D'accord. Alors il y a eu plusieurs ateliers dans ce projet-là. La photographie 3D, les pseudo-hologrammes, les hologrammes. Et il y avait même aussi une expérimentation autour d'une boîte. Je crois que c'est toi qui l'as préparé, la boîte.
Oui, c'était un système que John Harry Pepper avait popularisé. Ça s'appelle le spectre de Pepper ou le fantôme de Pepper. C'est une boîte en forme de L qui donne l'illusion qu'un objet apparaît ou disparaît.
Ouais, donc pour expliquer un petit peu, on a une plaque vitrée à 45 degrés.
Oui.
On a un décor derrière la plaque et perpendiculairement à la plaque, on a un objet qu'on éclaire et qui, du coup, en l'éclairant, apparaît dans la plaque, se reflète et apparaît aux yeux du public. J'ai bien compris ?
Oui, c'est ça.
Ouais, j'ai tout retenu de ce que vous avez dit ce matin, c'est génial. Et alors du coup sur les pseudo-hologrammes, sur les smartphones, vous avez réussi. Du coup, c'était un des ateliers qui était proposé cet après-midi.
Oui, on a fabriqué notre propre pyramide et à notre stand, on a présenté ça.
D'accord. Et les gens qui sont venus voir, ils ont eu quelle réaction du coup par rapport à ça ?
Je pense que ça leur a plu.
Ouais, ils ont été un petit peu étonnés de voir ça aussi peut-être.
Oui. Ouais, je pense.
Ouais, moi j'étais là, j'étais coincé, mais je serais bien venu voir ça de plus près. Et du coup, il y avait aussi la partie, on va dire, plus photo 3D. Quelqu'un peut m'en parler de la photo 3D ?
Mais alors, on a eu deux intervenants, Joël et François, qui sont venus nous aider à faire 3D. Donc on a pris des photos du collège. Il faut faire deux photos, une à droite et une à gauche de l'objet. Ensuite, on les superpose en mettant une de couleur cyan et l'autre de couleur rouge. Et en lui superposant avec des lunettes, notre cerveau donne l'impression qu'on voit en 3D.
C'est un petit peu le même procédé qui est utilisé au cinéma ou ce genre de choses, non ? ou c'est différent ?
C'est pas tout à fait pareil. D'accord. Mais c'est le même principe.
Ok, très bien. Bon, ben, dernière chose, les hologrammes. Alors ça, c'était Cyprien, c'est un collègue de la classe qui s'en est occupé. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu ? Comment on fabrique un hologramme ?
C'est très très compliqué, ouais. Et ça coûte très cher. Alors on n'a pas pu en faire malheureusement, mais bientôt on aura peut-être du matériel pour en tester un. D'accord. Mais c'est très compliqué parce qu'il ne faut pas de vibrations. Alors c'est souvent dans des souterrains et ça demande beaucoup de matériel. Mais après, en fait, c'est des lasers qui sont projetés. Et ça passe par plein de miroirs et plein d'outils différents. Je ne saurais pas dire lesquels exactement. Et au final, ça donne une image, mais
on peut tourner autour de cette image.
Ouais, voilà,
en
on fait. Peut tourner autour de cette image et voir toutes les faces de l'image. Le dos, les profils et tout ça.
D'accord. Et donc ça, c'est de la véritable 3 dimensions presque.
Voilà.
Très bien. Bon, bah, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. C'était très, très, très bien présenté. Puis vous avez bien bossé, je pense. Là, vous pouvez être fiers de vous. Je vous remercie beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt.
Merci.
Merci.
Les rencontres jeunes chasseurs, c'est la science qui vient te voir. Sur Studio ZEF.